Si tu me racontes un peu, tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, je pense que premièrement, je bougeais. J'avais un peu mal à l'aise, puis au bout d'un certain temps, tout dépendamment comment j'ai envie de m'exposer, je vais dire soit je travaille à l'Assemblée nationale ou je suis député. Je module en fonction de quel temps j'ai et que je veux passer avec la personne. Parce que le monde qui me demande ça dans des jeux veut dire qu'ils ne me connaissent pas, ils ne me reconnaissent pas. Et donc, ça me laisse un espace d'intimité que des fois je choisis de préserver en disant je travaille à l'Assemblée nationale. Puis là, mes deux disent, ah, tu fais quoi, moi? Ok, là, je Mais dans l'ensemble, c'est vrai, j'ai un certain malaise parfois à dire que je suis. Moi, je me suis toujours définie comme étant quand on me dit ce que je fais dans la vie, je l'ai toujours définie comme étant une activiste impliquée socialement. Tantôt, je répondais ça, tantôt, je répondais, moi, je défends le droit des minorités, le droit des femmes. J'allais beaucoup par mon engagement à travers ce C'est
Questionnaire.
je sais pas moi,
Quand on vous pose la question, que faites-vous dans la vie? Que répondez-vous?
Parce que j'ai jamais juste travaillé,
Considérez-vous votre parcours de vie comme typique ou atypique, linéaire ou non linéaire? Vous arrive-t-il de vous sentir à part? Vous souvenez-vous d'un moment ou d'un événement qui a bousculé vos convictions et qui vous a fait dévier d'une trajectoire plus convenue? Si vous n'aviez pas choisi ce parcours de vie, que feriez-vous aujourd'hui? Êtes-vous bien là où vous êtes rendu?
Bonjour. Donc, je vous représente Éric Dorion. Éric a grandi à Montjoly et a quitté sa ville natale à l'âge de 17 ans. Direction Ville de Québec. Je m'appelle Catherine Lalonde-Massécard. J'ai grandi à Saint-Sauveur dans les Laurentides. J'ai également quitté ma ville natale à l'âge de 17 ans. Direction Ville de Montréal. Nous nous sommes rencontrés 20 ans plus tard. 20 ans durant lesquels nous avons péri dans les mêmes sphères artistiques, dans des cercles connexes, sans jamais nous croiser. C'est le 24 février 2014 que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, en fumant une cigarette sur le perron de l'écomusée du Fiermonde, lors des journées de réflexion KO du regroupement des arts interdisciplinaires du Québec. Un an plus tard, on formait le duo Massécard-Dorion. Et si nous n'avions jamais quitté nos villages respectifs, quelles auraient été les histoires alternatives de nos vies? Est-ce qu'Éric serait devenu sergent détective? Est-ce que j'aurais marié le jeune Basinet de Skeemornas? Est-ce que nous serions devenus maire et mairesse de nos villages respectifs? Mais surtout, qu'est-ce qui nous a menés ou qu'est-ce qui nous a poussés à quitter nos villes natales à l'âge de 17 ans? Ce questionnement introspectif sur nos choix de vie est à l'origine de la thématique qui allait nourrir Déclencheur Uchronique, donc l'œuvre dont il est question présentement, aujourd'hui. Cette création a été diffusée à Québec en octobre 2016 et faisait partie de l'exposition collective présentée par l'organisme Folliculture. Le thème proposé était « Normalité ostentatoire ». Donc, en se questionnant sur le concept de normalité, conformité, normativité, régularité, c'est en se questionnant à ce sujet-là que notre thématique est apparue, ou plutôt une double thématique, qui devait s'alimenter par ses contrastes esthétiques, conceptuels ou encore opérationnels. Un, d'une part, nous voulions partir à la recherche de Normaland pour vivre intensivement une fiction dans le réel, ou des fragments d'histoires alternatives, de ce que nos vies auraient pu être si on avait décidé autrement. si on n'avait jamais quitté nos villes natales. En parallèle, nous voulions réaliser des entrevues à la fois didactiques et personnelles avec des gens que nous considérons avoir des parcours de vie alternatifs, afin de comprendre s'il y avait des moments spécifiques ou des événements déclencheurs qui les avaient fait dévier d'une trajectoire plus convenue. Éric et moi étions emballés par notre idée, par notre projet, convaincus que notre aventure à Normalan provoquerait de nombreuses expériences nouvelles qui allaient nourrir notre œuvre de toute la richesse de l'imprévisibilité des hasards. J'aimerais beaucoup vous raconter cette histoire aujourd'hui, cette histoire extraordinaire qui n'a jamais eu lieu malheureusement. Car, pour être bien honnête avec vous, l'histoire de Normalan fut une expérience plutôt déplaisante, déprimante, pour ne pas dire désastreuse. Donc, il est fort possible qu'aujourd'hui, entre les métadonnées que je vous récite, je ne vous dise pas toute la vérité au sujet de notre processus de création ou que certains détails seront peut-être modifiés, modulés, banalisés ou encore magnifiés. Allons à la case départ, le projet. Le projet déclencheur uchronique se voulait une investigation qui remonte dans le temps afin d'identifier des points tournants dans le passé des gens qui ont opté pour un style de vie marginal ou hors norme. Si vous aviez opté pour une trajectoire dite normale ce jour-là, quelle aurait été l'histoire alternative de votre vie? Que vouliez-vous être plus jeune? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a fait dériver? Comment suis-je devenue politicienne, activiste, artiste, crusty punk ou encore spécialiste des arts martiaux, alors qu'à l'âge de 11 ans, je souhaitais être camionneuse, orthopédagogue, mathématicienne, architecte ou encore consultante en relations internationales? L'Uchronie. Dans la fiction, l'Uchronie est un genre qui repose sur un principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement passé. Selon Wikipédia, on utilise également l'anglicisme « histoire alternative »,« alternate history ». Retournons maintenant à la base du mythe fondateur du duo Massécar de Rion. Donc, un an après avoir fumé notre cigarette ensemble sur le perron de l'écomusée du Fiermont, et voyons un petit peu le processus de création, comment il s'est développé. Le duo Massécar d'Orion se contamine par une approche interdisciplinaire qui marie art audio, pratique en contexte réel et performance-installation. 2. Son désir de faire place à de nouveaux langages qui défient des discours plus populaires. 3. Sa recherche de nouvelles formes de dramaturgie destinées à créer de nouvelles trames qui se superposent au quotidien. Point de ralliement pour alimenter notre processus de création. Nos projets se développent dans des contextes d'exploration approfondie de divers milieux de vie et dans une relation avec l'environnement, la communauté qui font partie de nos matériaux de base, des matériaux qu'on va exploiter pour notre œuvre. Donc, pour le projet déclencheur uchronique, le territoire à explorer était Normalan. Le duo se proposait de basculer dans la science-fiction, de vivre un fragment d'histoire alternative. Habiter et éprouver pendant 14 jours la réalité parallèle de Normalan, cette contrée qui est partout et nulle part. 14 jours en cavale entre des quartiers de style 10-30, à faire semblant de travailler en administration publique, à faire des sorties dans des bars et grilles, à troquer nos habits vestimentaires pour être synchronisés avec les activités, à dormir dans un condo ou un bungalow, à magasiner la maison idéale chez Bonneville, à rencontrer un conseiller financier ou tout autre aléa, boulot, déplacement, divertissement. Alors concrètement, l'œuvre allait prendre la forme d'un diptyque image en mouvement et audio. Pour la partie d'audio, la trame narrative s'est constituée à partir d'une dizaine d'entrevues enregistrées avec des personnes qui vivent hors de la société normative, ce que nous avons entendu en début. La partie image en mouvement voyez présentement à l'écran sont les traces, les archives de notre Normalande que nous avons archivées tout au long de notre processus avec différents outils du quotidien, vidéos, selfie stick, iPhone, tablette, ordinateur. Le final présenté à Folie Culture se voulait une installation dans une vitrine qui rappelle un petit peu celle des grands magasins comme Ameublement Tanguay ou Corbeil, présentant les images de cette vidéo sur un écran plat. Et dans la vitrine, on pouvait entendre les trames audio, les enregistrements qui évoquaient les réflexions sur la vie non standardisée ou les récits uchroniques de nos intervenants. Notre règle de création, notre mode de fonctionnement ou notre activant pour déclencher un processus était opéré strictement dans des banlieues pendant 14 jours. Nos excursions, nos activités, nos rencontres, nos visites de lieux comprenaient du divertissement aux galeries de la capitale, des massages en douceur pour le cuir chevelu de madame, des soins pour la barbe de monsieur, des visites et l'évaluation de prix de vente chez Bonneville, un arrêt gourmand au quartier 10-30, ce Lifestyle Center situé sur d'anciennes terres agricoles à l'intersection des autoroutes 30 et 10, conçu pour être agréable et favoriser l'acte d'achat. Un cours de spinning dans un complexe aquatique. Qu'est-ce que le spinning? Du cyclisme intérieur qui se concentre sur l'endurance, la force, les intervalles, l'intensité, la récupération. Des commandes à l'auto dans des commerces comme McDo, l'essai de la collection de robes et de souliers d'Ivanka Trump, une collection notamment critiquée pour avoir copié d'autres créateurs de mode, l'essai de complet pour hommes de taille forte, une séance photo de couple au studio Snap Photo, et j'en passe, et j'en passe. Alors, pendant ce temps, nous devions vivre et éprouver des fragments de vie alternative en infiltrant les banlieues au travers de diverses activités, en laissant parfois derrière nous des petites cartes qui disaient l'histoire telle qu'elle aurait pu être. Nous voulions que cette occupation longue durée du territoire et ses dérives en banlieue nous révèlent quelques secrets. Que les rencontres aléatoires, les échanges de courtoisie, les causeries banales nous révèlent une forme d'anthropologie du quotidien. Et que doucement, nous réalisions des actions clandestines pour tester ou provoquer la fine membrane du réel. Qu'entre les manœuvres artistiques, les actions invisibles et nos postures incognito, ressurgirait tranquillement l'invisible, soudainement palpable, matière précieuse pour nous laisser réinventer le réel comme nous le voulions. Alors, précision. La particularité de notre processus de création, de notre processus d'artiste en filature dans le réel, se révèle par une forme d'isolement dans notre quotidien. Nous l'avions déjà expérimenté en 2015, alors que nous vivions tels des agents secrets dans une camionnette dans le sud-ouest de Montréal, coupés de tout contact avec nos amis et nos familles. Nous étions conscients que les affects d'une telle démarche pouvait nous mener vers l'émerveillement, le déboussolement, la solitude, l'émotivité, en passant par les doutes. Alors, que s'est-il réellement passé à Normalande? La notion d'immersion s'est effritée quand nous avons dû ajuster notre mode opératoire pour des raisons financières. Nous devions presque systématiquement rentrer tous les jours dans notre appartement montréalais. Tous les soirs. Donc, entre nos sorties en Acura TSX emprunté, en Hyundai Elantra emprunté à nos parents, entre les embouteillages du système routier québécois sur les autoroutes des Laurentides, Descaries, René Lévesque, Bonaventure, Pont-Jean-Plein, Pont-Jean-Cartier, tunnel Louis-Paul-et-de-la-Fontaine, j'ai senti que le processus de création se transformait rapidement en routine, en boulot 9 à 5. Et puis, lentement, je perdais le goût de jouer au couple hétéronormatif qui s'impose des normes, des codes, qui se chicanent réellement dans le trafic à l'heure de pointe. Je ne voulais plus m'émerveiller devant autant d'autoroutes, d'échangeurs, de développement de maisons, de linge pour enfants que nous n'avons pas, de planification minutieuse pour obtenir un, un portrait de coupe mémorable et de conseils à mes 600 tels que porter des couleurs sombres, solides, pas de rayures, des bijoux brillants peuvent détourner l'attention des zones physiques problématiques, porter des costumes simples et, mesdames, des talons hauts. Pour Eric, s'installait tranquillement un découragement. Devant l'absurdité des situations, le non-sens global entre le sentiment d'être imposteur, car il ne vivait pas au quotidien dans la peau d'un habitant de Normalin, et un manque de motivation accompagnait l'anticipation de la journée qui s'annonçait à nouveau. Bien sûr, on a vécu quelques surprises ici et là, des impressions de se trouver proche d'un état inconnu, caché, qui se révélait à nous, à Normalin, qui était même prometteur de nous transformer pour la suite de notre processus. De loin, le volet le plus intéressant et le plus fascinant, le plus riche, par la teneur des histoires, mais aussi par des moments de rencontre intimes, fut le volet entrevue, des moments précieux dans notre salle à manger, suspendus aux lèvres de nos invités. Richard, qui a fait les mille misères. Stéphane, qui, en faisant des choix où tu changes de voie, où ton parcours change, a laissé des gens derrière lui. Manon, qui tout au long de son enfance, jusqu'à jeune adulte, était au regard des autres atypique hors norme, alors que pour elle, elle ne le sentait pas vraiment. Maggie, qui se sent vraiment bien là où elle est rendue, même si elle a encore des démons, même si la norme n'arrête pas de faire pression sur elle. Alexandre, qui dans une autre vie aurait eu un beau bureau, un beau grand bureau, comme les psychologues, qui sont des gens qui ont une certaine classe ou un détachement. Enfin, il aurait eu une belle maison à Outremont, avec beaucoup de boiseries. Et puis Guy aimerait peut-être bouger d'où il habite. Guy qui réfléchit, qui ne pense pas à l'argent, qui veut pas faire de l'argent, mais qui veut faire de l'argent. Et ça continue. Ça continue. Alors voilà, je vous ai communiqué différentes données, témoignages, matériaux au sujet de nos tentatives uchroniques, du mythe fondateur du duo Massé-Cardorion, de nos règles et mécanismes de création, de nos efforts pour faire apparaître la contrée fictive de Normalin. Mais l'histoire de Normalin s'est avérée particulièrement solitaire, démotivante, soutenue par un sentiment d'échec, utopique et créatif, marquée par un repliement tranquille sur nous-mêmes, qui nous éloignait d'un processus réellement authentique, qui nous plongeait plutôt dans un mimétisme forcé pour reproduire ce que nous pensions que nous devions faire, ce que nous pensions que l'expérience de Normalin devait être. Mais on ne peut pas imiter les effets d'une transformation d'avoir vécu dans un lieu, une transformation intérieure. Donc aujourd'hui, pour appuyer notre récit, nous avons présenté donc des images de Normalin. Nous avons retransmis quelques extraits d'entrevues, Eric a ajouté une couche sonore pour sous-tendre le récit. Alors que le récit, que les données que je vous ai données soient complètement vraies ou fausses, ce qui nous intéresse réellement, c'est comment nous pouvons jouer et superposer toutes ces strates d'expérience, de vie ou d'expérience artistique et son potentiel dramaturgique. En mars dernier, dans une tentative de réactivation de ces mêmes archives dans un laboratoire radiophonique, l'expérimentation nous a menés vers un normaland à la fois infernal, jouissif, spirituel et insaisissable. Alors qu'on vient de vous proposer une version d'échec utopique à normaland. Donc je pensais que cette version aujourd'hui serait possiblement propice pour amorcer une discussion avec vous cet après-midi. Merci.